Salut tout le monde, c'est Florent Gorge des éditions Pix & Love et on va
Attends, Florent Gorge, fais-nous-le en japonais, tu peux non?
En japonais?
Ouais, en japonais, tu fais le présent. Tu sais, au Japon, ils sont très... Ah, ils vont être...
J'ai la chambre en japonais. Bon, alors, en japonais. Konnichiwa, Florent Gorge des. Korekara, Takahashi Meijin no Daibouken Jima no test yaritai to omoimasu node, zehi, wawa to issho ni ganbatte ikitai to omoimasu node, goran kudasai.
Ah, j'ai entendu Wawa là. T'as dit quoi là?
T'étais un gros bouffon. Non, j'ai simplement dit qu'avec toi, on allait tester le test, enfin, on allait faire le test de Super Adventure Island sur Super Famicom et que ça allait être super sympa, donc que je conseille à tout le monde de nous regarder.
Voilà, et donc alors vous voyez ce petit personnage là mmh. Et ben en fait, ce personnage il existe dans la vie, dans la vraie vie, dans la vraie life. Ouais. Et en fait, ce personnage là, c'est lui.
Il a une biographie.
Voilà, et donc en fait, on va faire un crossover. Ils vont se croiser. Parce que lui, c'est lui. Et lui, c'est lui.
On n'a pas compris encore.
et donc, il y a autre chose aussi à dire sur la biographie.
Ouais, on fait un petit concours à tous les webstateurs de l'émission. On propose de gagner un numéro. Il suffit de répondre à la question suivante qui ne s'affiche pas ici. Il faut simplement trouver les deux prochains numéros que nous allons publier aux éditions Pix & Love dans la collection Biographie. Si vous trouvez les deux noms des prochaines biographies, vous envoyez un MP à...
Wawa sur le forum Backing Toys, comme ça je saurai exactement quand vous m'envoyez le MP, à quelle heure il a été envoyé, et non pas un commentaire, parce que les commentaires c'est des fois c'est pas très précis. Un MP, voilà, j'ai trouvé la réponse, et le premier qui aura trouvé, bah il aura ça.
Exactement.
Ça risque d'aller très vite.
La biographie de Takahashi Meijin, ça va être la classe, hein.
Voilà.
Allez, salut.
Takahashi Meijin.
Yes.
C'est bien ça?
C'est ça, on va dire que c'est bon. Validé.
Salut Florent.
Salut Wawa.
Salut Flo.
C'est comme tu veux.
C'est pas... Flo, c'est Florent, c'est...
Comme tu veux, il y a aucun souci.
Alors, tu te fais la gentillesse de venir. Alors, je dis Flo, pour le moment, les gens savent pas réellement qui tu es. Peut-être. On va y venir, même peut-être très rapidement.
Ouais.
D'accord, alors toi, donc Florent Gorge. Des éditions Pix & Love.
Exactement.
Je ne me suis pas trompé sur le
non, gorge. C'est parfait.
C'est bon. Donc en fait, toi, donc tu fais partie des éditions Pix & Love juste pour qu'on t'introduise. Comme ça, c'est fait.
Ouais.
Voilà. Alors en fait, tu es le
l'auteur.
L'auteur des tomes Nintendo.
Voilà, de la collection L'histoire de Nintendo. Exactement.
Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, à quel jeu on va jouer aujourd'hui?
On va jouer, eh bien, écoute, à Takahashi Meijin no Daibouken.
Et on
Jima.
Et... On se lance tout de suite là, on est dans le au taquet là.
Bah écoute, ouais, t'as présenté le jeu, c'est sur ouais. Super Famicom.
Et aujourd'hui, on va faire un crossover. Alors je te laisse te mettre dans le move. Moi, je serai le, c'est moi qui va présenter le crossover qu'on va faire aujourd'hui. On fait un crossover, c'est ça?
Si tu veux.
Vas-y, alors.
Quoi, alors, je joue là, ça y est.
Alors oui, vas-y, tu, si tu veux.
Non, bah écoute, voilà, il y a pas d'histoire hein, là, comme tu peux voir sur l'écran, Takarashi Meijin. Que nous on connaît sous le titre de Adventure Island, c'est quand même
voilà, tout à fait.
Super Adventure Island.
Super. Alors là on joue à la version Super Famicom, d'où le Super Adventure Island.
Exactement. Donc en version japonaise c'est Takarashi Meijin no Daiboken Jima. Donc ça veut dire pareil, c'est l'Adventure Island de Takarashi Meijin. Donc on va dire qui est ce monsieur.
Alors on expliquera effectivement. Donc là on va faire un crossover parce que ce jeu-là on va l'apprendre un petit peu. On va l'apprendre après. Là on va introduire un peu le jeu plus.
Bien sûr.
Dans un premier temps on va jouer au jeu et ça nous amènera.
T'as vu le zoom de rotation.
Ça c'est magnifique. Et ça nous amènera donc à. On peut pas parler de Super Adventure Island. Mais... Takarashi Meijin. Sans parler du personnage.
Exactement, parce qu'il y a une histoire derrière ce petit personnage.
Voilà, alors maintenant parlons du jeu dans un premier temps.
Eh ben écoute, voilà, c'est une série qui est connue aussi chez nous, puisqu'elle a été adaptée aussi bien sur NES que sur Game Boy, que sur Super Famicom, que même sur MSX, enfin un peu sur tous les supports. Elle a commencé, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, à l'origine, c'est Wonder Boy.
C'est Wonder Boy.
Exactement, donc une borne d'arcade de Sega. Et qui a été donc la licence et les droits d'exploitation ont été achetés par Hudson Soft, qui est connu surtout pour la réalisation de la PC Engine et de tous les meilleurs jeux de la PC Engine, on va dire. Et donc ils ont racheté les droits du personnage, mais du jeu, disons, pour l'adaptation Famicom. Mais ils ont eu l'étrange idée de changer le sprite du petit blondinet avec ce petit
Gugus. Et on viendra après à ce fameux petit Gugus, comme tu dis. Mmh. On viendra expliquer un peu son histoire. Parce que...
c'est important.
Ça oui. C'est... Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur celui-ci, donc Super Adventure Island. Qu'est-ce qu'on peut dire
Bah, écoute, c'est un jeu sorti en 92, donc la Super Nintendo était déjà sortie même en Europe. C'est un jeu qui a été adapté même sur Super Nintendo. Il est donc, comme on l'a dit, sous le titre Super Adventure Island. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? C'est compliqué de parler de jeu.
C'est pas facile, hein.
Non.
Bah déjà, on peut parler, je dirais, presque des graphismes. Dans un premier temps, ce qu'on voit tout de suite.
Ouais. Alors, ce qu'il y a d'intéressant en fait dans ce jeu, c'est que il utilise plutôt bien. C'est un jeu qui est extrêmement agréable à jouer, très maniable. Plutôt bien fichu au niveau du level design. D'ailleurs, tiens, je vais essayer de récupérer le bonus.
Alors déjà, ça commence. Les bonus sont cachés déjà.
Exactement. Et les bonus sont cachés, donc là, je viens de le découvrir. Petit aparté, écoutez bien la musique, parce qu'elle est très funky. On va en parler d'ailleurs de la musique.
Faut qu'on danse là.
Ah ouais. Quand c'est un peu dance, tout ça, c'est... Enfin...
Sur les dance floors, vas-y, oui.
Sur les dance floors. Donc, c'est une des qualités, en fait, de ce jeu, les musiques. Je me souviens, moi personnellement, j'y jouais quand j'étais en 92, genre 5e, 4e. Et,
c'est un vieux ça?
Ouais, je suis un vieux 79, tu vois. Et je me souviens, c'était une des particularités de ce jeu, c'est qu'en mettant sur pause, tu vois, les musiques
ont continué de tourner.
Exactement, il y a certains niveaux dans ce jeu, les musiques sont tellement sympas. Je faisais exprès d'aller à un certain niveau juste pour ensuite mettre sur pause et rester 5 minutes.
Ah vraiment, tu faisais ça?
Ouais, exactement.
Mais alors, voilà, on parlait des graphismes, on y reviendra peut-être après. Parce qu'on a parlé de level design. Mais là, on parle des musiques.
Ouais.
Donc, impossible de dire que les musiques elles sont faites par qui, ces musiques?
Eh ben, écoute, je te le donne en mille et mille, c'est fait par un grand maître de la musique, jeux vidéo indépendante. Et... Allez, vas-y, dis-le, ça te plaît.
Yuzo Koshiro. Exact. Est-ce que je l'ai bien dit? Je l'ai bien prononcé.
Tu l'as très bien prononcé.
Ah oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu parles le japonais, tu lis le japonais,
ouais.
Tu écris même dans un magazine japonais.
Je suis correspondant pour un magazine japonais, exactement.
Voilà, et tu fais tout de japonais.
Je fais quoi?
Tu fais tout de japonais.
Bah écoute, sauf la brouette, mais...
voilà. Alors oui, alors donc là, les musiques, c'est Yuzo Koshiro.
Exactement.
Et connu pour Street of Rage, Actraiser. D'ailleurs, on retrouve des bruitages de Actraiser dans ce jeu.
Ouais, notamment dans l'intro, effectivement. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu, c'est que... c'est pas des musiques de jeux vidéo, en fait. Quand on les écoute bien, il y a même à l'époque des testeurs dans je sais plus quel magazine qui disait, en jouant à Takarashi Meijin, enfin en jouant à Adventure Island, il y a des gens qui pensaient que le testeur écoutait un CD en même temps, parce que il multiplie en fait les genres. On tombe dans le disco, on tombe dans le funk, on tombe dans la house, dans la soul, et il y a même des stages, on le verra tout à l'heure, où on est en reggae, quoi.
Voilà, mais d'ailleurs, elles sont pas appropriées, je dirais, au type du stage.
Par exemple, plaisir.
Il a mis les musiques, mais c'est pas approprié à l'environnement du stage.
Il s'est plutôt fait plaisir, on va dire, parce que c'est vrai que le passage où il joue du reggae, on a plutôt l'impression d'être au Far West, donc ça fait pas tellement reggae.
Exactement.
Mais disons que, voilà, en tout cas, les musiques sont d'excellente facture. Enfin, on va le voir tout au long du jeu.
Voilà, on les écoutera. Et maintenant, au niveau des graphismes, là, on voit carrément, donc la Super Nintendo peut afficher simultanément. Ah, je te trouble.
Je voulais faire un perfect parce que ce qu'il faut dire quand même, juste avant,
d'accord.
Avant, je me suis entraîné, ça fait longtemps que je n'avais pas joué à ce jeu. Et je suis allé jusqu'au dernier boss.
Oui, oui, oui.
Et puis, on a arrêté au dernier boss.
Qui est assez agaçant, je dirais presque.
Ouais, on va dire qu'il a été assez agaçant. Donc, on a arrêté et puis. J'arriverai pas jusque là pour dans le temps imparti. Ouais, en tout cas les graphismes, qu'est-ce qu'on voulait dire?
Je disais que la Super Nintendo affiche 256 couleurs simultanément.
Ouais.
Et on peut dire qu'on y est presque quand même là. Graphiquement, au niveau des couleurs, tout, c'est des couleurs très chatoyantes. On est vraiment dans un décor presque dessin animé,
oui.
Presque.
Alors oui, donc les sprites sont énormes. Il y a une petite anecdote d'ailleurs, puisque ce jeu-là sorti en 92, Hudson y a pris grand soin. Non seulement en faisant appel par exemple à Yuzo Koshiro, qui était déjà de grande renommée après avoir signé parmi les plus jolies bandes de la Super Famicom, et là pour le character design et surtout les couleurs, les graphismes, ils ont fait appel à un autre artiste qui est très connu au Japon, totalement méconnu ici.
Ah oui,
qui est Susumu Matsushita.
D'accord.
Ça te dit rien?
Non.
Bah écoute, pour les gamers qui nous regardent, et je sais qu'ils sont nombreux, c'est le dessinateur officiel des couvertures de Famitsu.
Ah bah oui, mais exactement, le petit personnage, le petit chat là.
Exactement, tu regardes les couvres.
Le chat, je l'ai là, quelque part, là, je l'ai là, mais je peux pas aller le chercher là.
Regarde, là tu montreras, tu feras un petit zoom, c'est si tu reconnais la patte graphique.
Exactement.
De Matsushita.
Allez, je te laisse jouer, je vais le chercher le petit personnage.
Bah pendant qu'on le regarde, écoutez la musique, là, c'est la musique du boss.
C'est ce petit personnage là.
Voilà, exactement, je connais pas le nom du personnage.
Mais... C'est un petit chat.
Ouais, c'est la mascotte, on va dire, de Famitsu. Hein, t'entends les musiques?
Magnifique. Ah non, mais là, on pourrait danser, là.
Ah ouais. Allez hop, le boss.
Allez hop, le boss. Alors, graphiquement, magnifique. Au niveau des musiques, magnifique.
On connaît la patte de Matsushita. Hein.
Ouais. Magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que... Gameplay, maintenant. Voilà.
Ben, gameplay. Il y a l'utilisation du super saut, comme tu peux le voir, et des animations plutôt sympas. J'aime bien la pose de Takarashi Meijin quand il... Voilà. Tu vas fou.
Moi j'aurais plus envie. Là on parle du jeu, mais moi j'ai envie qu'on parle aussi du livre. Donc on va parler du jeu. Ça me démange. Hein. J'ai envie là. Parce que là c'est un vrai crossover.
Ouais,
c'est un gros crossover. Donc oui. Alors donc les graphismes, le gameplay maintenant. Par rapport, je vois qu'il y a des petits carrés là.
Exactement.
Ça reprend. C'est quoi? C'est ton énergie?
Ça reprend le concept de Wonder Boy. En fait c'est une énergie qui diminue. Au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est pas quand tu te fais toucher, ça c'est vraiment un jeu, tu te fais toucher une fois, t'es mort, sauf quand t'as le petit skateboard, etc. Mais en gros, tu te fais toucher, t'es mort. Donc la barre d'énergie, en fait, c'est le temps que tu peux passer sans bouffer des fruits. D'accord.
Donc, d'accord.
Plus t'attends, là, toi, j'ai pris mon skateboard, là, je me ferai toucher une fois, je reviendrai au mode normal. Mais si tu attends sans prendre de fruits, tu vas voir que la barre elle diminue petit à petit. Donc là,
est-ce que c'est pas l'équivalent, je dirais, peut-être d'un time? Tu sais, souvent dans les jeux, il y a un timing.
C'est exactement ça.
Un timer.
Et tu récupères en fait des secondes en bouffant ces petits fruits. Voilà, hop, je me suis fait toucher. Et ralentissement.
Allez,
C'est pas bon là, c'est pas bon.
Mais pourtant, mais c'est normal, c'est pas évident de parler de là.
Non, c'est très compliqué, je t'avouerai. Donc, au niveau du gameplay, ça reprend les mêmes bases. Hein.
Que Wonder Boy, quoi.
C'est des acquis, exactement. Donc, c'est exactement pareil que Wonder Boy. C'est les premiers Takarashi Meijin, c'était déjà comme ça. Ils ajoutent 2-3 petites nouveautés à chaque numéro, comme par exemple, quand tu arrives à accumuler les armes, tu obtiens une super arme. Là, tu as le super saut en appuyant sur bas et en sautant, ce qui permet de sauter quand même un peu plus haut.
Un tout petit peu plus haut, là, ça te donne un plus grand saut.
Exactement, donc tu vois, c'est des petites nouveautés. Ça reste un jeu extrêmement classique. Mais ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'il est surtout très maniable et très fun à jouer. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que contrairement au premier numéro, surtout le numéro 1, la difficulté est extrêmement bien dosée. Et c'est pas un jeu qui est très frustrant. Il y a des passages effectivement qu'on va recommencer 5-6 ouais. fois, mais pas 20-30 fois comme dans le premier.
C'est pas un jeu de hardcore gamer.
Non. Mais là, pour être honnête avec toi, je vais me baser sur mes souvenirs, mais j'ai souvenir que la version européenne, j'en suis pas complètement certain, était beaucoup plus compliquée parce que là, la version japonaise, elle a des continus infinis. Et moi, je me souviens que la version européenne, j'avais que 3 continus, parce que sinon, je l'aurais terminé quand j'étais petit, mais j'ai jamais réussi à le terminer avec 3 continus à l'époque.
D'accord.
Donc, je pense qu'il était plus difficile en version occidentale, en fait.
Et pour autant, ils ont mis moins de continus, quoi.
Et en plus, ils ont mis moins de continu, ouais. Donc, moi, j'étais pas arrivé à le terminer. Puis là, tu vois, en une partie, après 10 ans, j'arrive au dernier boss. Donc, il y a un petit problème.
Ou alors, t'es un trop bon joueur.
Ou alors, j'ai vachement commencé depuis, mais j'en doute, quand
même. Mais c'est pas possible. Alors, oui. Alors, il y a combien de numéros? Alors, là, parce que, en plus, ce qui est intéressant, bon, on y reviendra après, c'est que là, on voit exactement le nombre. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 4.
Bonus stage.
Ouais. Le 1, 2, 3, 4. Tu veux peut-être nous expliquer le principe des bonus stages, peut-être?
Non, c'est tout bête. T'as les trampolines, tu récupères tout ce qui se trouve sur ton chemin. Puis
pas forcément difficile.
Non, c'est juste des petites pressions bien dosées sur la manette pour arriver pile poil sur le bon truc, mais c'est vraiment pas compliqué.
D'accord. Et après, il faudra qu'on discute des armes. Moi, ça m'intéresse un petit peu.
Bah, écoute.
Ah, mince. Bon. Alors, il y a le 1, le 2, le 3,
et le 4.
Le 4.
Bravo.
Le Super Adventure Island, ici.
Uh-huh.
Voilà. Le New Adventure Island.
Island.
Iceland. Super Adventure Island 2, donc c'est-à-dire la suite directe de celui-ci.
Ouais.
Et il y a une version sur Wii, il y a eu aussi une version sur
GameCube,
PS2. Donc là, c'est ce qu'on a dans le bouquin,
biographie, ouais.
La biographie, on dit plutôt. Excuse-moi, je veux pas dénigrer. Dans la biographie, effectivement, on voit que vous avez fait aussi une rétrospective. Ce qui est bien intéressant, parce que souvent, je fais des fiches.
Ouais.
Et j'ai pas eu besoin de faire des fiches aujourd'hui.
Bah écoute.
J'ai juste besoin d'ouvrir
un petit billet tout à l'heure. Ouais.
Voilà, exactement. Tu m'as mâché.
Attends,
explique-moi.
Regarde, je me souviens de mon super contrat, l'avion qui arrive. Bah, c'était
le
spectacle. Et bah là, c'est. Tu viens d'avoir le clou du spectacle.
Bah voilà, nickel.
Ça valait le coup, hein, d'accord.
Alors maintenant. Ah là, c'est-à-dire que si tu touches, t'es mort là.
Si tu tombes en bas de l'écran, ouais. Moi j'aime bien cette musique là, tu vois.
Et j'aurais presque envie de danser là, tellement elle...
C'est funky, hein.
Ouais, franchement, elles sont vraiment sympas. Mais pour autant, elles sont, sur certains stages, comme on disait, pas vraiment appropriées.
T'es dans une baleine, quoi. T'as pas envie de danser du moonwalk dans une baleine, mais mais bon, disons que la musique est vraiment sympa, quoi. Ok.
Alors, non. Alors, oui, alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait parler de ce petit personnage qu'on voit là?
Ouais.
Donc, à la base, ça devait être Wonder Boy.
Exactement.
Le tout premier, attention, quand on parle du tout premier Takahashi Meijin,
ouais.
Qui était sur Nintendo, qui était aussi sur MSX, ça devait être Wonder Boy.
À l'origine, exactement, c'était ça. Disons que Hudson Soft, à l'époque, cherchait un jeu d'action à faire, à publier sur Famicom. Et un des programmeurs dans une salle d'arcade est tombé sur un jeu récent qui venait de sortir et qui était donc Wonder Boy, qui est de Sega. Donc ils se sont dit, mais ça, ce serait un jeu super sympa à faire sur Famicom. Et comme Sega, on s'en doute, allait pas sortir un jeu sur une console Nintendo, on laissait Hudson acheter les droits. Et puis, de fil en aiguille, en fait, le petit personnage, la Takahashi Meijin, en fait, est venu à remplacer Wonder Boy. Puisque ce petit Takahashi Meijin était quelqu'un d'assez connu au Japon.
Voilà, et c'est là qu'on va introduire Takahashi Meijin.
Ouais.
En fait,
si tu prononçais mieux, tu vois, je me planterais pas là.
Ouais, je te perturbe. Et en fait, Takahashi Meijin, c'est ce monsieur.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés. Le personnage qu'on voit ici, c'est une personne qui existe dans la réalité.
Exactement.
Et donc vous en avez fait une biographie.
Une autobiographie, donc c'est
autobiographie.
Pas nous, c'est le personnage en question qui a écrit sur lui-même.
Voilà, et vous l'avez adapté.
On l'a traduite. C'est un bouquin qui est sorti chez Enterbrain à l'origine. Donc Enterbrain, c'est l'éditeur de Famitsu. Donc on a été au Japon, on leur a demandé les droits du bouquin, ils nous l'ont cédé, et puis nous on a traduit, enfin j'ai traduit le bouquin, et on l'a adapté pour le marché français.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur ce monsieur? On va pas tout parler, il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de pour vraiment l'introduire, pour comprendre un petit peu, parce que ce monsieur-là, c'est pas non plus quelqu'un comme ça dans la rue, c'est pas un acteur pour autant. C'est qui ce gars-là? Ils l'ont pris, mais pourquoi et comment?
Alors, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire de ce monsieur, c'est qu'à l'origine, c'est juste un employé de la firme Hudson Soft. Un simple employé, exactement, qui a une histoire assez rigolote. Il est né à Hokkaido, enfin je vous passerai les détails, qui a été recruté parce qu'il travaillait à l'origine dans un supermarché de fruits et légumes. Et il a été recruté donc par Hudson, un peu par hasard, et il a été envoyé donc à Tokyo, de la firme Tokyo Heat d'Hudson, et il est devenu en fait responsable de la communication des jeux Hudson Soft, qui à l'origine n'étaient que des jeux sur PC, enfin sur les micros on va dire. Et puis de fil en aiguille en fait, ils en sont venus, Hudson, à travailler en collaboration avec Nintendo, et ce Takarashi Meijin, il est devenu célèbre suite à un événement un petit peu inattendu. C'est-à-dire que Hudson, dans le cadre de sa communication, organisait des manifestations pour les enfants, pour présenter les jeux aux enfants, et notamment un qui était Championship Lode Runner. Lode Runner avait connu, avait fait.
C'était une version assez spéciale de Lode Runner.
Voilà, c'était.
C'était des gamers qui avaient fait des stages.
Voilà, et c'était une compilation des meilleurs stages faits par des joueurs. Et donc il faisait une démonstration devant un parterre d'enfants à l'occasion d'un petit Japan Expo, mais au Japon on va dire, c'est pour parler de manière imagée. Et puis ce qu'il y a de marrant, c'est que bon, Takarashi Meijin, c'est un excellent joueur, hein, faut dire qu'il joue très bien aux jeux vidéo, il a un don pour les jeux vidéo.
C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'ils lui ont dit tu vas faire la démonstration au début. C'était le meilleur de l'équipe, on va dire.
On va dire que c'est ça de toute façon. Et c'était un jeu qui était en cours de développement, donc il faut savoir que dans Championship Lode Runner, à partir du niveau 10, t'es obligé de rentrer des codes, d'accord, pour passer au niveau 11, 12, 13, etc. T'es obligé de passer les codes. Et comme c'était un jeu qui était en cours de développement, il voulait pas que les enfants voient les codes. Donc lui, il s'était arrangé pour retenir les codes par cœur. Et
il se retournait pas, même si je me souviens bien.
En fait, il a pris sa manette, il a entré les codes sans regarder l'écran. Avec la manette dans le dos.
Parce que ça se faisait pas de tourner le dos aux enfants.
Exactement, il voulait, en rentrant son code, il voulait parler aux enfants, continuer d'expliquer comment fonctionnait le jeu. Donc il a eu l'idée en fait de au lieu de se retourner pour regarder, il a rentré, et comme la manette était trop courte, parce que la manette Super Famicom est très courte, il pouvait pas, enfin bref, voilà, il était obligé de mettre la manette dans son dos.
Donc c'est devenu un dieu rien que par rapport à ce petit détail. Les gosses sont devenus fous.
Il a fait plusieurs stages en faisant son numéro, et puis les enfants en fait ont trouvé que c'était génial, et c'était plus génial même que le jeu. Ils disaient mais comment il fait? Il regarde même pas l'écran, ouais. C'est un dieu. Et à la fin de la cérémonie, enfin de l'explication, il y avait 300 gosses qui faisaient la queue pour lui demander une autographe, quoi. Donc,
et là, la popularité a commencé à arriver là.
Bah, disons qu'à partir de ce moment-là, Hudson, le staff d'Hudson qui était là, ils se sont dit, mais c'était marrant en fait aujourd'hui ce qu'on a fait, on a bien rigolé. Ce qui pourrait être marrant, ce serait de faire ça en fait, mais dans d'autres villes au Japon, un petit peu partout. Et donc, en buvant un coup le soir, en faisant un petit peu le bilan de cette soirée, ils ont eu l'idée de faire ce qu'ils ont appelé plus tard les fameux tournois caravanes.
Caravane tour. Alors les caravanes tour, c'est-à-dire en gros, donc lui ce qu'il a fait, c'est que lui il se baladait donc au Japon. Ouais. Un peu partout au Japon.
Exactement.
Et il était là pour présenter les jeux Caravan Tour, et en même temps c'était le Meijin, c'est le maître, quoi.
Alors ouais, avant de dire ça, ouais, effectivement le concept des
Caravan Tour.
Des Caravan Tour, en fait c'est des tournois, hein, de jeux Famicom, enfin des jeux Hudson on va dire.
Et ça a commencé avec Star Force.
Ouais, ça a surtout été des jeux des shoots, hein, qui se prêtent beaucoup au scoring. Et donc ils traversaient tout le Japon à bord de camions, il y avait deux équipes, et puis ils avaient besoin d'animateurs, d'accord. Et Takarashi Meijin, qui était plutôt quelqu'un de sympathique, avec un capital sympathie plutôt élevé, a été désigné en fait pour jouer le rôle d'animateur, et surtout présenter le jeu avant le concours, que les enfants souvent connaissaient, et il était très doué, voilà. Il avait une technique qui a beaucoup marqué les enfants, qui était d'appuyer 16 fois sur les boutons.
Oui, alors ça j'ai du mal à y croire, on y reviendra après.
Et c'est vrai.
J'ai du mal à croire que... Mais bon.
Et c'était à une époque où les jeux en auto-fire n'existaient pas. Et en shoot, en fait, t'es obligé de bourriner la manette, hein, tu t'en doutes. Et lui, en fait, il avait une technique qui était assez spéciale, qu'il maîtrisait vraiment super bien. Et il appuyait pendant 10 minutes, il arrivait à appuyer comme ça, et avec une fréquence de tir qui était tellement élevée que ça impressionnait tout le monde. Et ils ont réussi, ils ont trouvé un moyen, c'est très bien expliqué dans le bouquin, de calculer, ils en sont venus à la conclusion qu'il arrivait à appuyer 16 fois sur le bouton à la seconde.
Et ils ont monté devenu une petite machine.
Ouais, exactement. En fait, après ils ont appelé ça Julokurensha en japonais, et en anglais on traduit ça par 16 shots, ok?
D'accord.
Et donc tout ça de fil en aiguille, en fait, la popularité au fur et à mesure de l'avancée du tournoi de la tournée caravane,
ça c'est
Takarashi Meijin, ouais, est devenu en fait une véritable icône. Il avait un succès fou auprès des gosses. Et il s'appelait pas Meijin. Hein. Meijin, ça veut dire Game Master. Hein. Donc, ils lui ont trouvé un nom de scène, en fait. Et partout où ils allaient, c'était de plus en plus la folie autour de ce personnage. Il a commencé à apparaître dans les journaux, dans les magazines de jeux vidéo de l'époque. Il a commencé à être convoqué aussi pour animer une émission de télé. Donc il animait une émission de télé, disons une rubrique de jeux vidéo à la télé. Il est devenu conseiller aussi à la radio dans les émissions pour enfants.
C'est devenu une superstar.
C'est devenu une superstar. Il a fait des films, il a même chanté. Enfin, c'est devenu une idole, l'idole des enfants, quoi. Et pourtant, c'est pas non plus un beau gosse. Hein. Faut pas se voiler la face.
C'est gentil pour lui, ça.
C'est gentil.
Il est pourtant sympa là dans le jeu là.
Il est très sympa. Il a un capital sympathie.
Il ressemble pour autant, tu penses le personnage qu'on voit.
Ouais. Il a bon, évidemment, maintenant il a 50 ans et il a perdu ses cheveux, mais
il avait beaucoup de cheveux. Il avait les cheveux qu'on voit là.
Exactement, il avait une casquette. Donc, je veux dire, à l'époque, c'était exactement ça. Tu regardes les photos de l'époque, on reconnaît vraiment bien le personnage, il est plutôt bien foutu. Et c'était ça, en fait, Takarashi Meijin. Ils lui ont trouvé un nom de scène, Meijin, qui veut dire Game Master et qui est souvent utilisé, en fait, pour le Go et le Shogi. Et qui a vraiment une connotation. Ah, tiens, j'arrive au boss du troisième niveau. Tu vois, je réfléchis même plus.
T'arrives à bien, ah, tu vois, t'es concentré, t'arrives à.
Ouais, mais, enfin, ouais.
Ça me fait penser au Snake, le truc qu'on a dans les téléphones portables, là,
ouais.
Non?
Ouais. J'en sais rien.
T'en sais rien, mais si, t'as dit téléphone portable, quand même.
C'est un peu ça, ouais.
Ah oui, c'est ça, regarde.
Attends, là, tu me décours. Ah, bah, putain.
Zut alors.
Il est pas super compliqué, celui-là.
Zut alors.
Tu vois, il suffit que je me reconcentre sur le jeu pour que je perde. Faut que je joue inconsciemment. Et, donc, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Meijin, c'était un nom qui a une connotation extrêmement forte, qui impose vraiment le respect. C'est un grand maître international pour les échecs, mais dans l'équivalent japonais, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Ceux qui jouent aux échecs savent ce que veut dire grand maître international. Et ben Takarashi Meijin, il a réussi à se faire appeler avec une appellation qui à l'origine est utilisée pour le Go et le Shogi. Et forcément, quand t'as un nom de scène comme ça, les enfants, tout de suite,
ouais. T'es crédible, t'es tout de suite.
T'es catalogué. Voilà, t'es pas un rigolo, t'es un grand joueur de jeux vidéo. Enfin, ça devenait en fait. Il faut se souvenir quand même qu'en 86, 87, au début de la folie de Takarashi Meijin, on entre vraiment dans la période folie Famicom. Ça devient un véritable
Donc il y a eu plusieurs jeux de. Il y en a
Aventure
plusieurs.
Island.
Voilà, c'est ce qu'on est, on énumérait tout à l'heure, le 1, 2, 3, 4. Donc c'est vraiment, il est rentré dans un tourbillon de médiatique en fait.
Exactement. Ouais.
Et il l'a dépassé quoi. Il a été.
Eh ben écoute, il s'y attendait pas du tout parce que lui, il avait jamais demandé, il s'attendait. Enfin, je pense pas qu'il se soit douté une seule fois au cours de son enfance qu'il deviendrait la star qu'il est devenu plus tard.
Parce que d'autant plus que lui maintenant quand vu qu'il était dit oh là là, tu vas y arriver après. Ouais. Comme vu qu'il était de chez Hudson Soft.
Ouais.
C'est-à-dire que c'était pour Hudson Soft, c'était du pain béni sa popularité parce que tous ses jeux allaient se vendre.
Il a vendu un paquet de jeux à lui tout seul, ça c'est évident.
D'ailleurs même en faisant ces jeux-là ont vachement bien marché quand même.
Ils ont cartonné, ouais. Hudson a été une firme extrêmement prospère à l'époque Famicom. Ça a commencé à baisser à partir du moment où la Super Famicom, bon, la PC Engine a été un grand succès pour eux, leur a rapporté beaucoup d'argent, mais ils ont commencé à voir la vie en noir quand ils ont lancé leur deuxième gamme, la PC Engine FX. Et ils n'ont pas réussi à prendre le train en marche. Et malheureusement, Hudson n'a plus la même aura qu'ils avaient dans les années 90, 80-90. Ça reste une firme de prestige. Ils ont toujours des licences sympas, Bomberman.
Mais c'est ils vivent sur le passé, on va dire.
Bah écoute,
c'est leur passé qui les font.
J'ai eu la chance moi de rencontrer Takarashi Meijin.
D'ailleurs voilà, on a des photos qui s'affichent même là.
Tout à fait. Alors, là, tu la vois là.
Ah, on la voit là.
Et donc il m'expliquait que ils étaient plus que deux de l'ancienne équipe d'Hudson de la belle époque, tu vois.
D'accord. Lui il est toujours chez Hudson actuellement.
Il travaille toujours chez Hudson, ouais. Tout à fait.
D'accord.
C'est quelqu'un d'extrêmement fidèle et qui est.
C'est un employé à vie, quoi. C'est comme c'est comme dans le foot, au foot, certains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant au niveau du jeu là? Donc là, c'est le boss de quel stage là?
J'en sais rien. C'est le troisième, ça.
Parce que tu vois, j'avais tellement envie d'en parler. Tu vois, on a un petit peu décalé, mais c'est pour la bonne cause parce que on peut pas parler de ce jeu, de cette saga, je dirais, sans parler du personnage.
Bah non, c'est important.
D'ailleurs, il y a même eu un manga.
Eh ouais.
Il a même
C'est voilà, pareil dans les années. Tiens, t'entends le reggae là?
Non, mais même la musique là de l'aigle qui t'a déposé, c'est une musique de Act Razor aussi, un bruitage d'Act Razor. La musique est vraiment sympa là, mais elle a rien à voir avec.
On s'en fout, il s'est fait plaisir et il a fait plaisir aux joueurs parce que franchement.
Tiens la hache. Alors explique-nous un petit peu. Alors il y en a qui vont être déçus, vont dire non mais continue à nous parler de Takahashi Meijin. Mais il faut qu'on parle un peu du jeu quand même. Alors là, au niveau de la hache.
Ouais.
C'est quoi alors? Il y a plusieurs armes.
Bah écoute, il y a plusieurs armes. Qu'est-ce qu'il fait? Il me gonfle lui. Hop, voilà.
Parce qu'il veut, il veut pas être gentil avec toi.
On va dire qu'il y a deux armes principales. La hache et le boomerang. Tu as remarqué d'ailleurs tout à l'heure que dans l'eau, la hache et le boomerang avaient les mêmes effets. Donc ça, ils s'en foutaient hein, à l'époque. Hein, la réalité physique. Oula, et... petit bug de collision.
Alors qu'est-ce que j'allais dire? Donc il y a la hache.
Il y a la hache.
Que tu peux pas tirer au-dessus avec la hache, c'est ça?
Bah disons que c'est très limité, voilà. On peut pas tirer au-dessus. Tu vois là, j'essaie de tirer au-dessus, ça marche pas. Et puis lui, là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Non, je savais même pas qu'il tirait du feu lui, tu vois donc. Et puis donc le boomerang,
le
qui
boomerang
est beaucoup plus pratique.
Et il y a une petite boule rouge que tu tirais au début du jeu.
Mais ça c'est le power up, on va dire, quand tu arrives à choper un certain nombre d'armes de manière consécutive, tu as un petit power up et ça t'as une plus grosse fréquence de tir, une portée un petit peu plus longue.
D'accord.
Alors, c'est okay. Des petits rajouts de gameplay qui changent absolument pas la vie du jeu.
Mais est-ce que pour autant l'arme?
Ouais.
Si tu prends la hache, ce sera plus efficace contre les boss que le boomerang, pas pour autant.
Non, alors en fait, ça dépend vraiment. Tu vois, tout à l'heure, on s'est retrouvé contre un poulpe qui est absolument imbattable si tu utilises le boomerang, parce qu'il faut des courbes. Chaque boss, en fait, a ses spécificités. Il y a vraiment des bugs de collision avec celui-ci, hein, tu vois.
Mais non, parce que là tu touches pas le personnage, tu touches le ballon.
Tu rigoles.
C'est le personnage qui faut que tu touches. C'est le personnage qui faut que tu touches, c'est pas le ballon.
Bah oui, mais non,
en fait, tu as touché les nuages et tu vas
des yeux, c'est pas possible. Regarde.
Non, tiens, tu tires dans les nuages. Non, mais je touche le personnage, tu touches pas.
Attends. Ouais, mais là.
Ah oui, là oui.
Mais là oui. Regarde.
Non, mais là c'est normal, tu touches le ballon.
Mais non. Si. Dans les commentaires, tu verras, ils vont dire que t'as pas de yeux.
Dites qui a raison.
Voilà.
Donc les armes, trois armes en fait. Parce qu'il y a le boomerang, la hache et puis le petit truc que tu tirais et le rouge là.
C'est la même, hein, mais sauf qu'elle est power-up quoi. Mais c'est exactement les mêmes réactions. Les boules rouges, elles ont les mêmes propriétés de direction. Donc ça change absolument pas, c'est juste qu'elles sont un petit peu plus puissantes. Mais ça reste deux armes, uniquement deux armes.
D'accord. Et dans la série des Takahashi Meijin, c'est lequel le meilleur? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est celui-ci? C'est d'ailleurs pour ça que tu l'as choisi peut-être.
Non, c'est juste, oui, je l'ai choisi parce que d'une part c'est celui avec la difficulté la mieux dosée, donc qui permettait de montrer plus de choses.
Voilà, c'est ça.
Plutôt que d'avoir à faire du die and retry intempestif. Donc là, sur les jeux au niveau 4, ça permet aux gens de voir un peu de décor sans avoir à me taper tous les niveaux. Mais là, c'est vrai que elle est un peu chiante cette arme parce que quand on a qu'une, le temps qu'elle revienne, t'as le temps de te faire bouffer.
Oui, parce que le désavantage du boomerang, c'est qu'il fait un aller-retour.
Exactement.
Alors que la hache, c'est en continu. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, combien de stages dans ce jeu-là? Parce qu'en plus, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Là, on est à la fin de l'émission.
Déjà,
ça va vite. Hein.
Ouais,
il y a 5 stages.
Ouais, 5
donc
stages.
C'est 1-1, 1-2, 1-3,
un boss. 2-1, 2-2, 2-3, 2 boss.
Voilà, exactement.
3, 1, 3, 2, 3.
Et c'est continu infini.
Eh ouais.
Et toi, tu meurs à l'infini, je dirais.
Mais écoute,
t'es en train de mourir à l'infini.
Ouais, là, je suis reconcentré sur ce que tu me dis. Donc...
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je laisse te concentrer, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant sur Takahashi Meijin concernant les jeux en eux-mêmes? Dans la saga des Super Adventure Island, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Et ça reste d'ultra classique. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est juste.
La comparaison, c'est-à-dire le crossover entre Takahashi Meijin et les Super Adventure Island. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que je sais pas le personnage? On peut dire par exemple que Takahashi Meijin, dans sa jeunesse, était un casse-cou. Dans sa très tendre enfance, c'est quelqu'un qui aimait bien faire les 400 coups, qui faisait. C'était un aventurier, je dirais presque.
Exactement, c'était comme tous les gosses. Il vivait à la campagne, dans la campagne de Hokkaido, au nord du Japon. Et c'est vrai qu'il aimait visiblement les sorties champêtres dans les bois, dans la forêt, dans les montagnes. Et il raconte très bien d'ailleurs différentes anecdotes dans Pixel Love.
Et dans celui-ci-là.
Ouais, exactement. Ouais.
Dans celui-ci. Et donc ça veut
numéro
dire
12.
Le Super Adventure Island, on peut dire limite que il, c'est ça, ça, le personnage est pas très loin de sa personnalité. Parce que ça aurait pu être lui, mais on aurait pu en faire un, je sais pas, un personnage dans l'espace. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Là, je dirais que ça colle aussi à la personnalité du personnage.
Et écoute, lui, il a eu différentes petites anecdotes.
Il a fait aussi de la musique.
Oui, mais il a eu différentes anecdotes. C'est-à-dire qu'il avait une popularité auprès des enfants qui était impressionnante. Hein. Et les enfants, qui sont des personnages très malléables au niveau de la pensée, étaient très déçus en fait. Ils connaissaient très bien le jeu et la première fois qu'ils rencontraient Takarashi Meijin, ils étaient très déçus parce qu'ils le voyaient à moitié à poil dans le jeu.
il
s'attendait à le voir comme dans le jeu. Donc lui, il avait ouais, exactement. Il y a des enfants qui disaient mais pourquoi vous portez des habits? Quand il le voyait la première
mais
fois.
Parce que c'est vrai qu'il est rentré dans un imaginaire. C'est un personnage réel qui est devenu. Est-ce que c'est pas la première fois pour autant que souvent les héros de jeux vidéo ils sont portés de films, de dessins animés.
Ouais.
Et lui, il est venu de la réalité, je dirais presque.
Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Takeshi Kitano sur un jeu Famicom mémorable. Il y a eu plein de. Il y a eu des adaptations de stars connues au Japon, chez nous, de personnes réelles, de personnalités. Il y en a pas. Mais peut-être que lui, qui est une personne tout à fait banale, enfin banale, c'est méchant ce que je dis, mais qui est quelqu'un en fait qui sort de nulle part. C'est peut-être le premier, oui.
C'est ouais, voilà, c'est ça.
À l'origine, il a eu un, c'est le hasard qui l'a conduit à avoir la vie de star qu'il a eu. Mais il faut dire qu'effectivement, c'est un employé à l'origine. C'est comme si on voyait un jeu Miyamoto aujourd'hui, quoi, tu vois.
Voilà, c'est ça. Alors juste pour terminer, parce qu'on arrive vraiment à la fin là.
Ah là.
C'est triste, hein, t'as vu, on est bien, on se sent bien.
Ah là,
tu resterais toute la journée, toute la nuit là, non?
Tu me réinviteras, surtout que là je suis parti pour le finir.
Ah oui, je sens que. D'ailleurs, en plus, on termine jamais les jeux, donc ça tombe bien. Et oui, dommage. Oui, donc je
sais
oui.
Quoi, on va terminer, regarde, sur le gros zoom là. Il y a un gros zoom. Il va tomber à plat. On fait une chute qui tombe à plat, tu vois. Là, pour la transition.
Là, alors attends, on va voir ça.
La chute qui tombe à plat.
À plat. J'ai cru qu'elle avait bugué la console aussi. Là, mince.
Non, ça.
Oh, Pilot Wings.
Pilot Wings.
Pilot Wings, c'est vrai qu'elle
est. Je rachète
en anglais. Je vous rachète en tout. Oui, donc juste pour dire, donc effectivement, donc il y a eu d'autres sociétés qui ont essayé d'avoir leur Meijin.
Meijin.
Leur Meijin.
Ouais.
Leur Meijin. Et ça, ils se sont plantés souvent. Certains, le gars arrivait devant tous les gosses, il se plantait deux trois fois.
Ouais.
Alors que lui, le fait que lui, ce personnage-là,
ouais.
Lui, c'était un vrai master du jeu vidéo.
C'est bien que tu termines sur ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner. Ce gars-là, en fait, il avait une légitimité parce que c'était un joueur qui est très très doué. Et quand les sociétés rivales ont vu que le phénomène Meijin rapportait, il avait qu'à dire ce jeu est excellent pour qu'ils se vendent.
Ils ont voilà.
Et ils ont tous sorti pendant une époque, il y avait des Meijin de tout le monde. Il y avait 40 Meijin à peu près. Et le problème,
c'est que, en carton.
Exactement, c'est-à-dire que c'était les gars qui avaient une bonne gueule, etc., mais qui savaient pas jouer aux jeux vidéo. Et il me racontait Takarashi Meijin dans l'interview qu'il avait eu une conférence avec des enfants pour présenter un nouveau Meijin dans une société rivale, et qu'il avait pris la manette en main, il avait fait commencer sa démonstration. Il avait échoué trois fois de suite au même endroit, et les gosses avaient commencé à lui dire rembourser, enfin tu vois, l'échec total.
Ah ouais, c'est la honte. Oh,
et donc sa carrière de Meijin, elle a duré quoi, 10 minutes. Et il y a que lui en fait qui a réussi à
et qui reste dans les mémoires.
Marquer, à, voilà, exactement, à rester dans les mémoires, et il reste une star quoi. Dans le métro, puisqu'il prend le métro, c'est quelqu'un de très humble. Après l'interview, on a été boire un coup et manger quelques trucs très sympas avec lui dans Tokyo. Et les gens le reconnaissent dans le métro, quoi.
Quand tu te baladais avec lui, il y a des gens qui le reconnaissaient.
Qui le reconnaissaient. Et dans le bar, parce qu'on a terminé dans un bar, en rentrant dans le bar, il y a des gens qui disaient Meijin.
Ah ouais.
Oh là, qu'on l'invite, Meijin da. Mais donc ils disaient, regarde, c'est Takarashi Meijin.
C'est excellent,
une vraie star qui aujourd'hui reste vraiment une figure populaire de la culture gaming, jeux vidéo. Au Japon. Donc non, c'est quelqu'un qui a une légitimité.
Qui a bercé l'enfance de tous ces gosses.
Ouais, il a fait rêver des centaines de gosses et c'est quelqu'un d'attachant. Voilà.
Ouais.
Vraiment.
Alors donc, est-ce que tu penses
Je te dis oui tout de suite.
Que ce livre intéressera les Français, je dirais.
Bah écoute, c'est un pari. Hein. Nous à Pixel 9, on aime les paris. Comme ça, on pourra pas nous dire qu'on a.
Et je dois dire qu'il est vraiment. Alors là, on a la version japonaise.
Exactement.
Qui est tout en noir et blanc. Ouais. Et je dois dire que quand je vois votre version qui est toute en couleur, je me dis que vous avez fait plus que de la traduction.
Ah, on a fait de l'adaptation, parce qu'on sait que le public français est très compliqué, très difficile. Donc on savait qu'un bouquin noir et blanc, ça vous plairait pas. Donc, voilà. On a fait des pieds et des mains auprès d'Interbrain pour obtenir les documents en couleur. Et en se battant un petit peu, bah, on a réussi à les avoir et bah, on a bien fait, on est bien content de...
Donc là dans ce livre, donc on connaîtra toute la vie de Takahashi Meijin.
Exactement. Enfin toute la vie, il est pas mort hein, le pauvre.
Toute la vie,
les 50 premières années du Game Master. Exactement.
Voilà. Donc sur ce,
yes,
on va se laisser.
Tu me laisses.
Je reste avec un Game Master.
Ouais, parce que là, tu vois, jamais dans ton.
On finit ça et après.
Voilà. Et on arrive au niveau 5. Mais tu es aussi. Vous le verrez pas.
Toi, t'es aussi, t'es un Meijin. C'est le dernier stage en plus, donc ça tombe très bien. Tout est programmé avant.
C'est pas le dernier stage. Enfin bref.
Bon bah écoute, je te dis à la prochaine parce que tu reviendras de toute façon.
Bah écoute, si tu m'invites.
Alors je te laisse dire au revoir aux gens.
Au revoir les gens, bah écoutez, bonne lecture, on espère.
Alors
que
si vous voulez le trouver, hein, bon, vous avez l'adresse qui s'affiche.
Parler, mais...
Non, juste, il y a l'adresse qui s'affiche.
Ah oui,
c'est pas aller le dire. Elle a failli nous bousculer même. Voilà, c'était juste. Et je te laisse terminer.
Eh ben écoute, l'adresse s'affiche, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou aux éditions Pixel Love, on est bien content. Bon, moi je pose la manette. Et je suis bien content d'avoir passé ces quelques minutes avec toi. Et puis bonne lecture à tous les gens qui nous regardent. Et puis bonne. Essayez Takahashi Meijin sur Super Famicom ou enfin Super NES, il est vraiment.
C'est celui que tu conseillerais, plus qu'un autre si tu on voulait
ouais, il
rentrer
est très
dans l'univers. Voilà.
Il est très bien. Jouez.